Radio Kapi.
Oh, Kapi. Blaise Shindani Kambala pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, au quartier Kampemba, sur l'axe Kambov-Likasi, dans le Haut-Katanga, les parents d'élèves de l'EPE Mukumbi et de l'Institut Luanzo s'inquiètent de la vétusté avancée du bâtiment scolaire partagé par les deux écoles. Ils demandent sa réhabilitation avant la rentrée. L'annonce des consultations locales dans le cadre du dialogue national est accueillie avec optimisme en Ituri. Plusieurs acteurs politiques et de la société civile estiment que cette initiative pourrait contribuer au retour durable de la paix. Vaskos Sasita, coordonnateur de l'ONG Akizangu, est notre invité. Son organisation a tenu récemment à Kindu une formation sur la défense juridique et judiciaire des défenseurs environnementaux à l'intention des avocats, parajuristes et acteurs des cliniques juridiques. Encore une fois, bonjour à tous. À la veille de la rentrée scolaire, les parents d'élèves de l'école primaire Mukumbi et de l'Institut Luanzo tirent la sonnette d'alarme sur l'état de délabrement très avancé du bâtiment qui abrite ces deux établissements. Nous sommes au quartier Kampemba, dans le territoire de Kambov, sur l'axe Kambov-Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Endommagé à la suite d'une catastrophe naturelle, l'édifice présente d'importants dégâts qui suscitent de vives inquiétudes chez les parents. Ces derniers plaident pour la réhabilitation urgente des infrastructures afin de garantir à leurs enfants des conditions d'apprentissage adéquates. Le point avec Paulin Munanga.
Sur 6 salles de classe que compte le bâtiment, 3 ont perdu leur toiture après le passage d'un vent violent il y a quelques mois. D'importantes fissures sont également visibles sur les murs. Les bureaux administratifs ainsi que les latrines ont été partiellement détruits. Dans cet état, l'établissement peine à offrir un cadre propice à la rentrée scolaire prévue ce mardi 1er septembre. Face à cette situation, les parents d'élèves lancent un appel pressant aux autorités compétentes afin qu'une intervention rapide soit engagée pour la réhabilitation de ces infrastructures scolaires. On réhabilite ces établissements scolaires pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Lorsqu'il va pleuvoir, les enfants vont étudier sous la pluie. Nous demandons aux autorités d'arranger les bâtiments en urgence pour permettre aux enfants d'étudier. Nous ne savons pas comment nos enfants vont étudier. Que les autorités trouvent une solution. Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire de Kambov, Francis Kalongo, reconnaît l'existence de ce dossier. Il indique avoir déjà saisi les autorités provinciales de l'éducation en vue de trouver une solution à cette problématique. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans le même chapitre de la rentrée des classes 2026-2027, une controverse couvre au sein de différents syndicats d'enseignants à Kinshasa. Ce samedi, l'intersyndicale a appelé les enseignants à renouer avec la craie, tandis que la synergie des syndicats des enseignants opte pour les boycotts. Toutefois, toutes les deux parties recommandent au gouvernement d'améliorer les conditions des enseignants et de perfectionner les conditions d'apprentissage des élèves à travers le pays. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La RDC risque une rentrée des classes à deux vitesses au cours de cette année scolaire. Et pour cause, les syndicalistes du secteur public ne parlent pas d'une même voix. L'intersyndicale demande aux enseignants de reprendre le chemin de l'école après avoir participé à un échange avec la ministre. Les porte-parole de cette organisation syndicale recommandent néanmoins au gouvernement d'améliorer les conditions des enseignants.
Au gouvernement de la République, de rendre opérationnel les processus de la mise en retraite et de payer les enseignants encore NIENP au T4 de l'année 2026.
Pour sa part, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC reste catégorique. Son porte-parole estime que l'État devra d'abord s'acquitter de ses engagements vis-à-vis des professionnels de la CRE avant qu'ils reprennent avec les cours.
La synergie des syndicats des enseignants décide, sur mandat des enseignants réunis en Assemblée Générale, la non-reprise du travail dans le secteur de l'éducation nationale à la date fixée par l'autorité de tutelle.
Vendredi dernier, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a échangé avec une délégation des syndicalistes des enseignants du secteur public sur plusieurs dossiers, dont la paye des nouvelles unités et des non-payés, ainsi que celui de la finalisation des mises en retraite des enseignants.
La qualité des services de télécommunication reste un défi en RDC. Après un contrôle citoyen mené auprès de l'RTPC et des opérateurs du secteur, les parlements des étudiants se félicitent de certaines avancées, notamment la mise en place d'une task force dédiée au suivi de la qualité des services. Il attend désormais des résultats concrets et appelle les régulateurs à renforcer son action. André Kakoubou, président du Parlement des étudiants, est au micro de Grace Hamzati.
Il y a la mise en place maintenant d'une task force dédiée à la qualité des services. On appelle ça QOS. Task force dédiée à la qualité des services qui est mise en place pour suivre tous les problèmes qu'on a identifiés. Puis il y a une task force assainissement de la ville et tout ce qui va avec. Il y a une task force comme ça qui est mise en place pour suivre tous les problèmes que je vous ai dit. Pourquoi il faut suivre? Parce que on ne peut pas sanctionner, parce que c'est l'ARBTC qui sanctionne. Elle ne peut pas sanctionner parce que nous avons dénoncé tout court, non. Il faut qu'elle ait les données des terrains, qu'elle ait des preuves suffisantes pour écrire au réseau. Donc vous n'allez pas demander à une telle institution d'écrire par hasard, on nous apprend ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Annexez les preuves précises, quel numéro, quelle zone, quelle heure. On vous dira exactement qu'à cette heure-là, parce qu'ils ont les services de monitoring, à cette heure-là, en mise en jaune, il n'y avait pas du courant. Ça causait ça au niveau de l'antenne. À cette heure-là, il y avait saturation parce que Batubele Bana Tchang. Vu que Batubele Bana Tchang, les téléphones sont à proximité, palin, ça fait que saturation wana, les eaux rendre lente connexion. Et c'est comme ça que ça se passe.
En Ituri, les consultations locales prévues dans le cadre du dialogue national annoncé par le chef de l'État sont perçues comme une opportunité de mettre fin au cycle de violence qui secoue la province depuis plusieurs années. C'est la réaction de plusieurs acteurs politiques et de la société civile après les discours du président de la République. Ils insistent toutefois sur la nécessité de choisir des participants qui connaissent les réalités et les véritables problèmes de chaque entité. Isaac Remoyope.
L'annonce des consultations locales en prélude au dialogue national est globalement saluée par les acteurs politiques et les organisations de la société civile à Ituri. Dans une province marquée depuis plusieurs décennies par les conflits armés, cette initiative suscite l'espoir de parvenir à des solutions durables aux problèmes sécuritaires et communautaires. Mais pour atteindre cet objectif, le choix des participants sera déterminant, estime Lieutenant Lucien, cadre de l'Union sacrée à Ituri.
Si on associe réellement les vrais acteurs dans la question de la sécurité de l'Ituri, on aura une paix durable. Ils vont dire les vrais problèmes de leur entité et on aura réellement une paix durable. Les problèmes persistent lorsqu'on prend les gens qui ne maîtrisent pas la question de l'Ituri.
De son côté, la coordination de la société civile estime que ces consultations devront être véritablement inclusives. Elle recommande d'associer toutes les composantes de la province, y compris les groupes armés engagés dans le processus de paix, afin que les échanges débouchent sur des solutions durables. Dieudonné Lossa.
Ne pas laisser une seule personne derrière, parce que laisser une personne serait laisser un problème non résolu. Et ce problème risque de rattraper encore de nouveau le Congolais dans les jours à venir. Nous serons en train de tourner en rond.
Rappelons que les fils et filles de l'Ituri réclament depuis plusieurs années l'organisation d'un dialogue consacré aux défis spécifiques de leur province. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons dans la province. Les nouveaux responsables de la Direction Générale des Impôts, DGI, s'engage à renforcer la mobilisation des recettes publiques et à améliorer l'encadrement des contribuables. Cet engagement a été pris ce mercredi à l'occasion de la cérémonie de remise et reprise organisée au siège de la DGI à Bounia. Cette réorganisation s'accompagne également d'une nouvelle répartition des responsabilités au sein des centres des impôts synthétiques. Le reportage d'Alida Kachweka.
À Bounia, la Direction générale des impôts entame une nouvelle phase avec les changements à la tête du Centre des impôts synthétiques et la réorganisation de ses services en deux entités. Désormais responsable du Centre des impôts synthétiques de Bounia Ouest, Zumbunda Oura Baraka affirme que ses priorités sont la mobilisation des recettes, l'accompagnement des contribuables et l'amélioration de l'efficacité de services. Il l'a déclaré ce mercredi lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur.
Élargir l'assiette fiscale en faisant participer au paiement de l'impôt l'ensemble des contribuables de notre juridiction, tous ceux qui hier s'est camouflé dans le secteur informel, nous allons tout faire pour qu'ils participent à la charge publique, chacun suivant sa capacité contributive, mobiliser beaucoup plus de recettes comme jamais auparavant pour que le CIS Bounia 2 soit parmi les CIS pilotes à pouvoir mobiliser les recettes fiscales dans notre pays.
Zumbunda Oura Baraka succède à Abamungu Mushizi. Ce dernier prend désormais la direction du Centre des impôts synthétiques de Bounia 1, compétent pour la partie est de de la ville. Cette réorganisation intervient dans un contexte marqué par le défi sécuritaire persistant dans certaines zones de la province et l'épidémie d'Ebola qui continue d'affecter les revenus des ménages et des opérateurs économiques. Abounia, Ali Dagacheka, Radio Okapi.
La production et la commercialisation des briques cuites font vivre de nombreux jeunes du quartier KM3 à Boma dans la province du Congo central. Considéré comme le principal bastion de cette activité dans la ville, ce quartier regroupe plusieurs artisans qui en font leur métier et leur principale source de revenus. Au-delà du revenu qu'elle génère, cette activité favorise la création d'emplois et offre une alternative au chômage. Par leur travail, leur détermination et leur esprit d'entreprise, ces jeunes contribuent activement au développement économique de la ville. Reportage signé Élise Kavira.
Sur ces sites de production, les briquetiers s'activent chaque jour pour assurer leur subsistance. Daniel Kema, l'un d'entre ces artisans, revient sur l'importance de ce travail pour sa survie et celle de nombreux jeunes du quartier.
Chaque année, nous produisons des briques ici, parce qu'il n'y a pas de travail. Au lieu d'aller voler, nous gagnons un peu d'argent ici dans notre quartier.
L'impact de cette activité se mesure également à travers les parcours de ceux qui la pratiquent. Témoignage de Célestin Balongi.
Ce travail m'aide dans beaucoup de choses, car il m'a permis de payer mes études et de subvenir aux besoins de mon enfant, qui a aujourd'hui 2 ans. Grâce à ce travail, je n'envie personne, car cela ne sert à rien.
Malgré ces résultats satisfaisants, ces entrepreneurs locaux engagés dans la fabrication des briques souhaitent développer leur activité. Ils lancent un appel aux autorités pour un soutien matériel adéquat afin de renforcer leur capacité de production. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Et ici à Kinshasa, de nombreux petits commerçants préfèrent épargner autrement. Au lieu de déposer leur argent dans une banque, ils confient une partie de leurs recettes à des collecteurs informels dans un système connu sous le nom de Bwakisakarte en Lingala. Très répandue dans les marchés et les quartiers commerçants, cette pratique permet à certains de constituer une épargne pour faire face à des dépenses importantes. Mais elle n'est pas sans risque. Reportage de Myriam Luani Bongo.
Il est 16h au rond-point magasin dans la commune de Kitambo. Carnet à la main, des collecteurs sillonnent des étalages pour récupérer les cotisations journalières des commerçants. 1000, 2000, 5000 francs congolais ou davantage. Chacun verse selon ses moyens. Cette forme d'épargne informelle, connue sous le nom de Bwakisakarte, est largement adoptée par les vendeurs du marché.
Grâce au Bwakisakarte, j'ai pu rassembler 450 000 francs en 3 mois. Cette somme m'a permis de payer les frais académiques de mon fils, étudiant à l'Unikin.
Si certains commerçants apprécient cette formule pour sa simplicité et sa proximité, d'autres restent prudents. C'est le cas de Néné, vendeuse d'oignons et de haricots, qui dit avoir vécu une mauvaise expérience.
Je préfère garder mon épargne à la maison, car j'ai vu plusieurs personnes être victimes d'escroqueries à travers le Bwakisakarte et les ristournes qui occasionnent des problèmes.
Pour certains économistes, ce mécanisme constitue néanmoins un outil de proximité qui permet à de nombreux ménages à faible revenu de développer une culture de l'épargne, de mieux faire face aux imprévus. Les institutions bancaires, de leur côté, encouragent les petits commerçants à recourir davantage aux produits d'épargne formelle, estimant qu'ils offrent davantage de garanties en matière de sécurité et de protection des dépôts.
Depuis sa mise en service, le nouveau pont Kalwebo apporte un véritable soulagement aux usagers. Cet ouvrage relie désormais les provinces du Kasaï et du Kasaï central dans de meilleures conditions de sécurité. Voyageurs, transporteurs et opérateurs économiques saluent la décision du gouverneur du Kasaï d'autoriser son ouverture à la circulation avant même son inauguration officielle. Tous espèrent une mobilité accrue des personnes et une circulation plus fluide de marchandises. Les détails dans ce reportage d'André Katendenga Lamouloumé.
Érigé sur la rivière Kalwebo, le nouveau pont facilite désormais les échanges entre les provinces du Kasaï et du Kasaï central sur la route nationale numéro 1. Pour les usagers, il s'agit d'un véritable soulagement. Pendant plusieurs années, la traversée de cette rivière était devenue risquée en raison de l'état de délabrement avancé de l'ancien pont. Willy Mulumba, chauffeur des camions poids lourds, rencontré au parking de Chikapa à Kananga, témoigne.
Auparavant, nous étions obligé de faire descendre les passagers avant de traverser les ponts, mais désormais nous pouvons traverser les ponts avec et à bord.
Au-delà de son importance pour la mobilité, ces ponts constituent également un atout économique majeur. Les commerçants espèrent un acheminement plus rapide de leurs marchandises entre les deux provinces avec moins de retard et par conséquent moins de pertes financières. Jean-Pierre Kamwabu, vice-président de la Fédération des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC au Kasaï central, s'en félicite. L'ouverture à la circulation du nouveau pont Kalwebo est intervenue avant son inauguration officielle. Selon le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, cette décision a été prise en raison des nombreux incidents enregistrés sur l'ancien ouvrage devenu dangereux pour les usagers. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après la mutinerie des jouets samedi 29 août, Niamey a connu une deuxième nuit relativement calme. Dans la capitale nigérienne, si la vie a repris son cours, les récents affrontements entre les militaires rebelles, principalement issus des forces spéciales et la garde présidentielle, risquent de laisser des séquelles au sein même de l'armée.
L'invité.
Vaskos Sasita est notre invité, coordonnateur de l'ONG à Kizangu. Il revient sur la formation organisée récemment à Kindu sur la défense juridique et judiciaire des défenseurs environnementaux. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Vaskos Sasita, bonjour.
Bonjour, merci madame.
Quel est l'intérêt de cette session de formation aujourd'hui avec les avocats du Maniema?
Merci beaucoup. Nous sommes venus renforcer leurs capacités parce que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de problèmes dans la province du Maniema comme dans d'autres provinces où nous implémentons ces projets. Et nous voulons que ces avocats soient à même de devoir être à la hauteur toutes les fois qu'ils feront face aux dossiers qui concernent les défenseurs de droits environnementaux.
De manière claire, sur quoi vous les avez appris?
Alors nous les avons renforcés sur les questions pratiques, les attitudes à adopter, les comportements à adopter, comment on rédige une note de plaidoirie, comment on fait référence à la jurisprudence, comment en fait on se comporte de manière particulière lorsqu'on fait face à un dossier de défense des droits de l'homme et plus particulièrement des questions qui concernent les défenseurs de droits environnementaux. C'est-à-dire c'est une capacitation particulière sur ces questions.
Vous parlez des manières de se comporter, comment un avocat peut se comporter devant une situation qui concerne l'environnement, la question de l'environnement.
Merci. Vous savez, les avocats que nous avons choisis sont tout d'abord des défenseurs de droits humains, pour nombrer. Et parce que votre question est la principale, c'est que toutes les fois qu'il faut face à une situation concernant les défenseurs de droits environnementaux, ils ne se comporteront pas comme il le faut pour tout autre dossier. C'est que la charpente que nous avons instaurée au travers ces projets à force que nous implémentons, c'est de nous rassurer qu'il y a une coordination et une mutualisation des forces comme des efforts, une mutualisation intellectuelle pour devoir assister un cas des défenseurs de droits environnementaux. C'est dire, un défenseur qui est arrêté à Kindu, l'avocat ou la clinique est informé, l'avocat ne va pas directement intervenir pour appuyer ses défenseurs. Il se ressource auprès de la clinique juridique qui est constituée des intellectuels, étudiants et professeurs. Il se ressource auprès de ses collègues d'autres provinces pour qu'ensemble ils puissent maintenant décider sur l'approche à adopter. C'est dire, voilà, les dossiers que nous avons, voici les faits, on se comporte comme ça. Ensemble, ils définissent une stratégie de défense pour devoir accompagner ses défenseurs. C'est tout à fait particulier avec ce qui s'est fait ailleurs. On veut qu'il y ait une gestion coordonnée parce qu'au finish, à la fin de ces projets, nous voulons aboutir à des précédents, je dirais à des jurisprudences pour que plus jamais ces défenseurs de droits environnementaux ne puissent être la cible de ceux qui les poursuivent.
Ceci pour votre propre intérêt ou bien pour aussi l'intérêt de la nation?
C'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt des défenseurs de droits environnementaux parce que vous savez, les questions de l'environnement font partie lorsque nous prenons les trois générations de droits de l'homme font partie des droits collectifs. Donc, lorsqu'on protège ses défenseurs, on est en train de satisfaire à la volonté de cette troisième génération et on ne protège pas seulement les défenseurs, on protège la communauté, on protège notre environnement et on protège ceux qui viennent exploiter les ressources, mais beaucoup plus, nous rassurer que ceux qui défendent pour les causes de l'environnement ne sont pas laissés seuls.
La question de l'environnement, c'est une question très complexe. Alors, aujourd'hui, vous formez les avocats pour défendre cette cause. Est-ce que les avocats eux-mêmes ont cette notion sur l'environnement?
Ils sont d'abord avocats, ils ont des notions sur l'environnement. Nous sommes revenus selon différents modules que nous avons analysés. Nous avons essayé de passer à revue certaines notions de droit de l'environnement et tout pour les mettre à niveau parce qu'ils sont déjà à niveau. Pour nos prix, ils sont défenseurs de droits humains. Mais attention, la question ici, c'est que la communauté, comme je le disais, elle va devoir profiter. Mais attention, nous venons d'abord pour les avocats. cas, nous reviendrons pour les membres de la communauté et pour les défenseurs des droits environnementaux. Nous ne nous arrêtons pas ici. C'est pas que nous sommes à Kindu et après que nous soyons partis de Kindu, ce sera tout. Non. Il y a des activités qui vont suivre notre présence pour que nous nous rassurions que non seulement les avocats qui sont en réalité des professionnels qui vont les défendre sont là à les appuyer, mais nous rassurons également que ces gens-là qui défendent l'environnement, ces populations elles-mêmes sont aussi outillées, appuyées pour qu'ils exercent leur liberté, leurs droits selon les prescrits de la loi.
Là, nous osons croire qu'un réseau de ces avocats est mis en place ici.
Les avocats existaient déjà, les réseaux avaient déjà été mis en place, les cliniques juridiques avaient déjà été mises en place. C'est qu'il y a déjà des équipes qui travaillent sous silas. C'est peut-être qu'aujourd'hui, ça sort de ces silas, mais comme on dit, la personne qui travaille a beaucoup plus besoin du silas pour que ce sur quoi il travaille puisse émerger et produire des faits. C'est-à-dire il y a déjà un réseau d'avocats installé à Kindu, il y a déjà une clinique juridique qui fonctionne au niveau de l'université de Kindu et qui est déjà en train de produire des fruits pour cette cause.
Vascos Sacita, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
C'est aussi la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis.